Au tennis maintenant, ça s'est poursuivi aujourd'hui du côté de Roland-Garros. Une victoire de Denis Shapovalov, Raphaël Nadal qui complète le travail, mais tout le monde n'en a que pour la tenue de Serena Williams. Bonsoir Hélène.
Oui, bonsoir Mario. C'est vrai que Serena, à quelques reprises dans sa carrière, elle nous a vraiment épaté dans un sens. Elle a été surprenante aujourd'hui avec un bas des sous tout noir. Elle avait l'air d'une fille qui était à l'entraînement, toute seule dans son gym personnel. Elle a voulu nous partager ce look-là, mais écoute, si tu veux t'amuser un tout petit peu, là, fais US Open 2004. Tu feras également, alors qu'elle était commanditée par Puma en 2002, US Open 2002, une tenue comme si elle était haltérophile. Elle avait porté aussi en 2004 un petit top clouté, pas de manches, la bedaine à l'air, boucle d'oreille dans le nombril, une jupe en jeans et des bottes qui faisait d'elle comme une superwoman, tu sais, jusqu'aux genoux. En tout cas, elle a enlevé la botte, elle dézipait ça en plein milieu du match. C'était vraiment quelque chose. Puis elle est arrivée sur le terrain avec un manteau jeans, en cuir noir, clouté de partout. Puis Venus aussi, elle nous en a fait quelques-unes, tu sais, avec sa robe moulin rouge. Et son sous-vêtement était tellement, tellement mince. À chaque fois qu'elle frappait une balle, la robe, qui était quand même très légère également, faite de dentelle, noire et rouge, ça laissait voir un sous-vêtement qui était ultra mince. C'était comme si elle n'avait rien sur le dos. Alors, les sœurs Williams aiment nous surprendre. Les sœurs Williams aiment faire le spectacle. Serena avait hâte de revenir au jeu. Évidemment, après la naissance de son enfant, ça a toujours été, évidemment, un grand but qu'elle s'est donné dans la vie, de ne pas s'arrêter à 23 titres Grand Chelem gagnés.
Elle qui a accouché en septembre. Qui a accouché en septembre dernier. C'est un retour en Grand Chelem aujourd'hui, sa présence à Roland-Garros, là, après 16 mois d'absence dans des tournois de cette envergure-là. Côté tennis, outre sa tenue, disons, qui continue de faire jaser, elle qui a toujours été audacieuse de ce côté-là. Côté tennis, comment t'as trouvé son retour sur le terrain, Serena?
J'ai trouvé qu'elle s'est ultra bien battue, Mario. Elle jouait contre la sœur de Karolina Plíšková, Kristýna Plíšková. Ça a été 7-6, 6-4. Ça a été extrêmement difficile, mais tu vois qu'elle a travaillé très, très fort. Certains de ses déplacements étaient quand même assez beaux si on compare à ce qu'on avait vu et à Indian Wells et à Miami. Là, elle était vraiment très juste physiquement également, mais c'est très, très encourageant la performance qu'elle a livrée aujourd'hui.
Revenons maintenant sur la victoire de Denis Shapovalov. Ça n'a pas commencé de façon rêvée, mais ça nous a permis de le voir se battre pour revenir dès la première manche.
Et je savais que contre John Millman, l'Australien, qui est très rapide en fond de terrain, que cela pourrait être un défi quand même intéressant. Ça a été tellement un grand et beau défi. Au premier set, on pense qu'il est bien parti, Shapovalov. Il y a un peu de pluie. Il a trois chances de briser un gros 0-40, ne le fait pas. Par la suite, il est brisé tout de suite après, et là, il prend les nerfs. Il pleut à ce moment-là, va voir l'arbitre. Pourquoi on est ici? Je ne veux pas jouer. Il faisait comme une crise d'ado. Et heureusement, on a pris un petit temps d'arrêt à 4-1, et ça lui a permis de remonter, de revenir dans le match, parce qu'il tirait de l'arrière par un bris. Il a brisé deux fois de suite Millman. Même scénario cependant à la deuxième manche, alors qu'il tire de l'arrière 3-1, mais s'extire de situations difficiles en jouant du tennis de très grande qualité et heureusement finit en force avec une troisième manche qu'il a dominée du début jusqu'à la fin. Alors, du bon et du moins bon, mais la bonne nouvelle, Mario, c'est qu'on veut qu'il gagne ses matchs rapidement, rondement, pour se garder de l'énergie pour plus tard dans le tableau, et c'est dans le fond exactement ce qu'il a fait.
Oui, ça risque d'être très important. 41 fautes directes de la part de Shapovalov. Il a quand même réussi 32 coups gagnants. Devra-t-il diminuer son nombre de fautes directes s'il veut avancer dans le tableau, Hélène?
Oui, ben c'est toujours évidemment ce qu'il faut vérifier effectivement, Mario, parce que son tennis est axé sur l'attaque. Shapovalov, il a du succès lorsqu'il prend les adversaires à la gorge, ce qui n'est pas toujours facile dans des conditions comme on a eu aujourd'hui. Il y a eu de la pluie, il a joué quasiment tout le temps sous la pluie, donc des conditions très lourdes qui n'avantagent pas nécessairement les attaquants, mais il faut qu'il continue d'attaquer avec justesse, évidemment. Et lorsque tu as plus de fautes directes que de coups gagnants, c'est jamais un bon signe. Mais il y a eu des sets qui se sont joués en deux temps, les deux premiers, justement. Alors, ça vient peut-être un tout petit peu fausser les statistiques, mais tu as parfaitement raison là-dessus. S'il veut aller loin, s'il veut se rendre en deuxième semaine, il faudra avoir moins de fautes directes.
Défaite, par ailleurs, de Vasek Pospisil et Raphaël Nadal, qui avait amorcé son match hier contre l'Italien Bolleli, l'a complété aujourd'hui, une victoire.
Oui, ça n'a pas toujours été facile pour Raphaël Nadal. Hein. Il disait que, moi, je le trouvais lent, autant hier qu'aujourd'hui. Et il a eu, évidemment, Simone Bolelli, qui est un joueur qui frappe extrêmement fort en fond de terrain. Bolelli n'avait absolument rien à perdre dans le fond parce qu'il était repêché des qualifications, ne devait même pas être dans le grand tableau, perd au dernier tour des qualifs. C'est comme ça qu'il se retrouve devant Nadal lorsque Dolgopolov décide de ne pas jouer. Et honnêtement, laissait aller son jeu, mais Nadal n'était pas toujours rapide sur la balle. Donc, dans ce temps-là, ça te donne moins d'options. Mais ceci étant dit, quelquefois, Nadal a très mal commencé en Grand Chelem et même à Paris, a déjà perdu des sets. L'important pour lui, c'était de quand même avoir la chance de se faire valoir lors du prochain tour et d'améliorer certaines phases de son jeu. Mais je pense qu'il a été étonné par la qualité des bombes en coup droit et en revers de Bolelli aujourd'hui. Mais il gagne quand même en 3 manches consécutives.
Les matchs à surveiller demain, Hélène?
Ben, en fait, tu sais, il y a Petr Polinsky qui s'est présenté sur le terrain très, très tard, sur le terrain numéro 18, et lui va... On est à une manche de chaque côté. Alors ça, c'est une excellente nouvelle contre Pierre-Hugues Herbert, qui menait 1-7-0 avec un bris d'avance. Il y a la numéro 1 mondiale chez les dames, Halep, qui va jouer son premier match contre Alison Risky, l'américaine. Nishikori contre le français Benoît Paire. Lucas Pouille fait son entrée également. Le merveilleux David de Goffin, qui s'était blessé gravement l'année passée en mettant le pied, tu sais, sur la toile arrière là pour protéger les terrains lorsqu'il y a de la pluie. Et des filles, des grandes, grandes joueuses comme Petra Kvitova, et une qu'on va surveiller particulièrement également, la jeune Daria Kazatkina, qui peut aller loin, la Russe, cette année. Elle est 14e tête de série.
Un gros merci, Hélène. Et fais un beau dodo. On te retrouve demain matin.
Merci. Au revoir.
Bye-bye. C'était donc Hélène Pelletier. C'est avec elle que nous complétons l'émission de ce soir. Dans quelques instants, c'est le Bonsoir les sportifs, animé par Jérémy Rainville. Un gros merci d'avoir été là. On se retrouve demain, le soir du match numéro 2 de la finale de la Coupe Stanley, 18h30. C'est un rendez-vous. Ciao.